Ok. Bon alors, alors une autre action. Bon, là, pour le coup, là, je te raconte une action très courte qui n'est pas une action qui est la création d'un lieu ou l'ouverture d'un lieu définitif. Je parlais de quelque chose de beaucoup plus léger. Donc là, c'est dans un cadre d'art contemporain. C'est un collectif de Casablanca qui s'appelle la Source du Lion, qui nous a invités à intervenir en résidence dans le cadre d'une démarche au long cours qu'ils ont dans la ville de Casablanca. Ils ont fait notamment un travail très intéressant, duquel ils se sont dégagés maintenant, mais qui était la réactivation d'un parc urbain, d'un grand parc urbain de 18 hectares qui était dans un état d'abandon, que la ville avait laissé complètement partir à l'abandon dans un quartier qui s'appelle le quartier de l'Ermitage, comme le nom de ce parc, et qui était devenu une décharge sauvage, mais vraiment une décharge pas à moitié, quoi. C'est-à-dire, dans le jardin, dans cet ex-jardin, il y avait des détritus qui montaient à peu près jusqu'à, mettons, 4-5 mètres de hauteur. Des endroits où il y avait des passages sous un pont qui étaient bloqués par la hauteur des déchets qui avaient été cumulés dans cette décharge, enfin dans ce jardin, dans ce parc. Et ils ont fait un travail qui les a fait connaître, qui a été de faire une maquette au centième de ce parc avec des gens volontaires, des artistes et des habitants du quartier. Et ils ont fait une maquette donc de 18 mètres carrés. En allant jusqu'à un niveau de définition assez fin, c'est-à-dire en allant jusqu'à modéliser les détritus, les sacs poubelles. Et ils ont exposé cette maquette en morceaux dans une galerie d'art contemporain, comme vraiment statue de sculpture. Et ça a eu un effet inattendu, pour eux en tout cas, et pour tout le monde autour, je pense, c'est que la ville, comme il y a eu de la presse sur cette maquette, et bien la ville a culpabilisé. 10 ans après l'abandon du parc, la ville a nettoyé tout le parc en 4 jours. Et à partir de là, a fait une démarche de réactivation de l'espace public, et en leur proposant d'être à l'articulation du nouveau projet de parc dans une dynamique avec les habitants. Voilà, donc on les a rencontrés là-dessus. Et en fait, tous les ans, ils ont une espèce de temps de résidence, séminaire, où ils invitent différents artistes européens pour les aider à réfléchir et à intervenir dans le cadre de la démarche de leur collectif. Et là, une intervention qu'on a faite auprès d'eux a été. Alors, l'action était la suivante. J'ai travaillé avec un artiste marocain. On a fabriqué toute une série de messages, donc des citations de littérature sur le fait urbain, des citations poétiques, puis des messages qu'on a écrits nous-mêmes, que j'ai fait manuscrire sur une tablette graphique à cet artiste qui s'appelle Younes Rahmoun. Je lui ai fait calligraphier ça en arabe, mais sous deux protocoles différents. Donc il me les a calligraphiés en arabe. Quand tu lis l'arabe, tu lis la phrase en arabe. Et je lui ai demandé de me réécrire ces phrases en écriture arabe. Mais lorsque tu les lis, si tu sais lire l'arabe, tu lis du français. Donc phonétiquement, c'est écrit en arabe, mais phonétiquement, c'est du français. Donc j'avais à chaque fois le double message, et on a fait toute une déambulation dans Casablanca où on installait un stand gratuit où donc avec un grand tapis de sol, des petits sièges, et on mettait des tas comme ça de messages que les gens pouvaient éventuellement nous demander, mais sans offre, sans code, sans prix, sans rien d'expliqué. Donc avec pour voir si ça a suscité une réaction du public, mais aussi parce que j'avais remarqué que dans Casablanca, la langue française est extrêmement présente. Donc déjà Casablanca, c'est une ville où l'architecture coloniale art déco est très présente et d'ailleurs assez intéressante, assez belle, hein, c'est-à-dire, les colonies ont très souvent des laboratoires architecturaux beaucoup plus intéressants que les pays colons eux-mêmes en la matière, et c'est le cas à Casablanca. Mais aujourd'hui, la présence coloniale française, elle est plus dans la langue qu'ailleurs, c'est-à-dire que tous les supports publicitaires sont majoritairement en français. Enfin, il y a cette présence très forte de la langue sur place, et même les expressions populaires sont à Casa beaucoup dans un mélange entre de l'arabe et des expressions francophones, quoi. Et donc là, j'ai voulu aller jusqu'au bout de l'intrusion de la langue française dans la calligraphie arabe, et de façon à engager aussi un espace de dialogue sur la question de l'espace public et de la pratique d'expression dans l'espace public. Au Maroc, comme dans d'autres pays, la possibilité de la performance artistique comme la possibilité de l'expression publique, d'opinion dans l'espace public, n'est pas aussi aisée que dans certains pays qui sont sous régime démocratique, on va dire, ou républicain, on va dire plutôt. On a donc à la fois une difficulté du citoyen à pouvoir exprimer certaines idées dans l'espace public qui n'est pas que l'espace concret public, mais c'est aussi l'espace des médias, de l'opinion. De la même manière que des artistes ont des difficultés à porter certains types d'actes et certains types de projets à la rencontre de leur public, quoi. Et moi, ça m'intéressait de pouvoir travailler ce sujet-là auprès de la Source du Lion, en trouvant une entrée qui pose mon propre problème d'auteur et d'intervenant. C'est-à-dire moi-même étant voilà, venant de France, travailler avec eux, faisant intrusion dans l'espace public que je ne connais pas, dont je ne maîtrise pas les codes complètement, dont je ne suis pas un des citoyens, et en même temps en ayant, de mon point de vue, une sérénité, une totale légitimité à pouvoir engager un dialogue avec les gens sur bah, comment vous vivez ici et comment vous auriez envie de le vivre. Et je me sens aussi concerné par le fait de pouvoir vivre ici que le fait que je vive ailleurs, en fait. Donc voilà, donc là, cette action, j'en décris une comme ça, assez légère, elle a été menée, et en fait, on a vu que ça perturbait pas mal à la fois les gens, mais aussi les autorités policières, puisque aucun des messages n'était en soi subversif, et c'était évident qu'on était dans des codes de ludique, poétique, quoi, vu que voilà, les policiers qui sont venus nous interroger sur notre autorisation à être là dans l'espace public, alors que t'as des gens qui pratiquent du marché sauvage à côté, là nous on était dans un échange de gratuité, c'est-à-dire de paroles contre du papier, quoi. Ça leur posait problème, ils s'inquiétaient des contenus qu'on véhiculait, et en même temps, en voyant qu'on ne faisait que parler de la ville et du désir de la ville, du désir d'en commun, c'était très délicat pour eux, vu que nous on était français, de nous dire de dégager de l'espace où on était. Et en même temps, on a vu comment ça a fabriqué une adhésion publique et une pratique d'interpellation très très forte, c'est-à-dire qu'un intérêt qu'on ne rencontrait pas en France avec un dispositif équivalent dans l'espace public de Paris, de Bordeaux, de Nantes ou quoi que ce soit, parce qu'ici on a tellement l'habitude de voir des formes d'irruption artistique dans l'espace quotidien que bon, voilà, on a une forme de curiosité, mais qui est une curiosité de spectateur télé, quoi. C'est pas la même chose que le type d'intensité qu'on a pu rencontrer là-bas. Donc encore une fois, bah, on trouve des actions des modes d'action qui sont contextuels, et puis c'est aussi la spécificité de ces contextes qui nous mettent nous-mêmes en intensité existentielle, quoi. Voilà.
Yeah.
Aujourd'hui, je me définis partiellement comme artiste. C'est mon statut, c'est plutôt un statut d'architecte, enfin, par ma formation, quoi. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à assumer l'idée de me définir comme artiste déjà. D'une part parce que ma discipline de rattachement et mes thématiques, mes préoccupations reste rattaché à la question de ce que j'appelle l'établissement humain et à travers l'architecture et l'urbanisme. Alors, avant de faire des études d'architecture, j'avais passé, mon projet personnel quand j'étais au lycée, c'était de faire une école d'art. Et donc, j'avais passé le concours des beaux-arts d'Orléans en cachette, quoi. Mais comme je venais de filière scientifique, voilà, je te parle de ma cuisine. De mon histoire personnelle, mais au départ, j'étais plus orienté dans mon désir vers une école d'art que vers une école d'architecture. Moi, je viens d'une famille où les gens sont plutôt dans le médical et dans l'hôtellerie, donc j'ai pas de rapport ni avec l'une ni l'autre des disciplines. C'est par acculturation personnelle, c'est par intérêt que je me suis tourné vers ces questions-là. Et donc, j'avais quand même des raisons précises aussi de faire des études d'architecture. Hein. Et c'est vrai que très très tôt j'ai littéralement ce que dit la directrice d'école des Beaux-Arts de Bordeaux d'ailleurs très souvent que j'ai squatté son école assez tôt. C'est-à-dire, je me suis fait des potes qui étaient aux Beaux-Arts et puis progressivement j'ai essayé de trouver des interlocuteurs pour continuer d'avancer sur des contenus sur lesquels j'avançais trop difficilement à l'école d'architecture. C'est-à-dire, en dehors des questions d'architecture et d'urbanisme, j'avais d'autres choses qui m'intéressaient et les enseignants qu'on a, qui sont des enseignants plasticiens aussi à l'école d'architecture, sont quand même contraints par un cadre programme qui fait que tu débordes peu des questionnements d'exercice et que travailler une problématique de recherche personnelle n'a pas vraiment sa place avant l'arrivée en troisième cycle chez nous, ce qui est exactement l'inverse de la tendance des écoles d'art où il y a mettons une année, deux années propédeutiques dans vos parcours et après très très vite ce qu'on vous demande c'est de construire un travail dit personnel. Enfin, il y a un écart assez fort d'approche. Et moi, j'avais besoin de pouvoir avancer question personnelle parce que déjà, je voyais que j'avais une attitude, comment dire, de méfiance critique par rapport au modèle de fonctionnement qui m'était proposé dans ma formation, d'une part, et d'autre part, je voyais bien que mon désir de pratique était aussi sur d'autres territoires. Et donc, c'est délicat quand tu es étudiant parce que t'oses pas trop, quoi, hein, ça demande de l'énergie d'assumer un désir de plusieurs types de cursus, on va dire, et suivant les établissements, il y a des établissements qui sont plus ou moins ouverts à ça. En tout cas, heureusement pour moi, je me suis fait des amis qui m'ont aidé, quoi, à évoluer, et puis progressivement, j'ai branché des enseignants d'école qui, parfois, me faisaient des corrections complémentaires à certains contenus sur lesquels j'avais envie de travailler, quoi. Bon, ça, c'est l'histoire du démarrage de mon parcours. Après, assez vite, en parallèle d'une démarche personnelle que j'avais montée, qui a abouti au bruit du frigo, donc qui s'appelle aujourd'hui les ateliers d'exploration urbaine, qui à l'époque s'appelait lecture publique, j'avais pas encore d'association support. Je menais des expérimentations d'observatoire du quotidien dans des quartiers, etc. Donc en parallèle de ça, je me suis impliqué dans des collectifs de plasticiens pour des interventions, pour des perfs, pour des constructions de situations. J'y ai trouvé le sens et la nécessité qui me manquait par rapport à des pratiques, par exemple, d'agence d'archi, où je faisais mes stages, où je bossais des fois pour payer mes études, voilà quoi. Et du coup, j'ai continué de développer deux pratiques parallèles, quoi. Et donc, c'est des amis plasticiens qui, au bout d'un moment, des années après, hein, le bruit du frigo existait. Des années après, m'ont dit, mais il faut que tu assumes le fait que t'es une posture artistique. Il n'y a pas que ton attitude. Il n'y a pas que ta posture d'architecte. Ton attitude, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin. Ton travail n'est pas strictement un travail d'architecture et d'urbanisme, tu as aussi un autre rapport à ce qui te met en mouvement et à ce que tu produis et à comment tu travailles qui est clairement dans une pratique d'artiste, même si tu ne vises pas des stratégies de diffusion type avoir un galeriste, faire des expos, etc. Et c'est vrai qu'après il y a des travaux de certains plasticiens qui m'ont beaucoup aidé à assumer ça et à mieux comprendre l'endroit de mon désir. Donc notamment, enfin pour moi, il y a eu deux figures importantes. Bon, d'une part Gordon Matta Clark et d'autre part Robert Filliou. Alors Matta Clark, pas strictement pour son travail de découpe de bâtiments, hein, mais pour sa posture, enfin ce que je lisais de sa posture à travers un peu son parcours de vie, quoi. Et comme après certains textes de Smithson aussi m'ont aidé à raisonner. Et donc finalement, bon, Matta Clark avait une relation très particulière à l'architecture, parce qu'il a commencé par des études d'architecture avant de devenir artiste. Et c'est un peu en réaction à ça aussi qu'il est devenu plasticien. Et donc je disais, voilà, une autre figure, c'est Filiou, et pas Filiou pour la nature de ses performances, mais plus Filiou pour sa pensée, pour son rapport à l'idée d'éducation permanente, de rapport à la création, et de rapport tissé entre la création, la vie et la construction de connaissances. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, mon entourage familial, déjà le fait que je choisisse des études d'architecture, c'était un peu le minimum tolérable un peu que je pouvais choisir, on va dire. Voilà, parce que je pense que ça aurait été bien plus apprécié que j'aille vers des filières encore plus, comment dire, soit scientifiques, soit peut-être de sciences politiques, on va dire. Donc mon entourage familial n'a pas du tout été moteur. Ça a été vraiment... Non, on ne peut pas dire ça. Par contre, dans mon parcours, Bon, il y a des aspects dont j'ai pas parlé, quoi. Enfin, j'ai eu un parcours politique aussi assez important sur la question de l'enseignement d'architecture en France, qui m'a mobilisé pendant vraiment plusieurs années, qui m'a coûté beaucoup, mais qui m'a appris beaucoup aussi. Et ça, c'est plus relié peut-être au vécu de mon enfance sur un campus où j'étais beaucoup entouré de gens qui étaient plutôt des militants politiques de diverses mouvances, quoi, mais où il y avait une place quotidienne à une forme de pensée critique, de pensée active, activiste, etc., qui, bon, bah voilà, forcément a une influence sur moi. Ça, oui, ça c'est clair, ça a une influence sur moi. Mais moins dans le rapport à l'art que dans le rapport à une forme d'activisme, quoi. Voilà.
On t'a dit 100 fois de ne pas mettre les doigts dans les prises, ni dans le nez, ni de toucher le oui-oui des filles. Pour un oui, pour un non. Mais oui, mais non, tu es mal élevé, très grossier, c'est merveilleux comme ça. Sans toi ici, mon petit gars, ça sentirait la mort, la vieille clinique. Tu voles des pantalons dans les prises uniques, et j'ai le fou rire à en pisser dans mon froc. Tu fais tout ce que je n'ose pas faire. On pourrait te nommer ambassadeur des gens clineux et timides. Eux, enfin nous, ils, enfin on n'ose jamais faire une chose de travers. Alors frappé d'insomnie, on se réveille la nuit et on enrage tout bas. Chérie, tu dors? Non, je m'enrage, ou plutôt je m'arrange, je me dérange tout seul. Ça finit par du psychosomatique, du narcoleptique, voire alcoolique. Ça finit comme ça, de toujours se la fermer, refouler, de toujours s'écraser. Timide et bien élevé, non, les gens timides n'en pensent pas moins lorsqu'ils s'écrasent comme des fruits pourris contre les murs. Encore une fois, on t'a dit 100 fois de ne pas mettre les doigts dans les prises, ni dans le nez.
Ok, bon, mais j'y vais. Donc là, tu me demandes d'intervenir plutôt sur d'éclairer un peu la structure et le fonctionnement du collectif. Alors, souvent on me demande pourquoi on utilise le terme collectif. Est-ce que vous êtes vraiment un collectif? Qu'est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est horizontal la décision parmi vous? Est-ce que vous êtes des co-auteurs? Est-ce qu'il faut être auteur pour être partie prenante du bruit frigo ou pas? C'est même des questions que se posent des personnes de l'équipe permanente, hein. Historiquement, le bruit du frigo, quand on l'a monté, qu'on a décidé que ça serait un projet durable, professionnel, le désir où on était, d'ailleurs ce pourquoi on a choisi un nom un peu comme ça, qui ne livre pas son contenu, on était plus dans l'approche, on va dire, résidence. C'est-à-dire, à l'époque, on avait, dans les cofondateurs, il y avait trois architectes, dont un avec une dominante urbanisme assez forte, un artiste plasticien. Pur cru, une psychologue qui faisait de la recherche en milieu hospitalier sur des pathologies comme la schizophrénie, voilà, les bipolaires, etc. Une psychosociologue, une personne qui était plutôt dans le secteur de la communication. Bon, voilà, en gros, le noyau de départ, quoi. Et donc évidemment à l'époque pas de salariés, ça a pris du temps pour qu'on puisse créer des premiers emplois et tout le monde était sur une base un peu d'implication bénévole parce que à chaque fois qu'on pouvait dégager l'économie on était plus intéressé à constituer un fonds d'action quoi, de la trésorerie pour pouvoir engager d'autres projets, pouvoir s'équiper. Bon ça c'est le démarrage de l'histoire. Donc quand je dis qu'on était dans un désir un peu où je prends l'exemple des résidences, donc les résidences pas pour le groupe de musique, mais pour l'idée de l'anonymat, c'est-à-dire utiliser un nom qui ne livre pas la clé de toutes les activités qui peuvent s'y jouer, du coup qui nous laisse une marge de manœuvre relativement ouverte à pouvoir autant être dans les actions que j'ai expliquées d'intervention sur la ville, d'éducation, de transmission, de négociation, etc. Mais aussi pouvoir être dans des pratiques performatives, dans des pratiques de détournement. Donc à l'époque, l'équipe initiale, on a fait des actions, une des actions où on avait fait connaissance d'ailleurs à l'époque, quand on avait fait le restaurant clandestin pendant l'échange qu'avait organisé Wonderful entre Bordeaux et Nantes, par exemple. Voilà, c'était le type d'action qu'on était susceptible de mener, qui était de plusieurs natures, bon, qui avait toujours relation avec, on va dire, les valeurs d'usage de nos espaces contemporains, un apport poétique et critique à ces usages-là. Mais ça pouvait prendre des biais différents. Et surtout, les membres du groupement qui n'étaient pas architectes, quoi, enfin étudiants en architecture à l'époque en l'occurrence, et puis architectes plus tard, ben, ces membres-là voulaient pas que le collectif qui se constituait s'enferme dans une figure trop identifiée architecture urbaine, quoi. Voilà. Alors. Quand il y a commencé à avoir des recrutements dans le bruit du frigo, en parallèle, il y a une histoire parallèle d'entrée, de sortie, de prise de distance, de parcours parallèle de membres fondateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient des clés de voûte conceptuelles et des piliers d'action qui, à un moment, par exemple, un des artistes qui était à l'origine du groupement, à un moment, a voulu prendre ses distances parce que il était dans le questionnement sur la construction de de sa propre identité d'artiste et se disait qu'il y avait un trop fort risque de dissolution, de dilution de son travail artistique en s'identifiant à ce collectif-là, par exemple. Tu vois, ça, il y a eu des crises qui ont été traversées de ce registre-là sans qu'il y ait une volonté ou un désir d'un individu parmi nous, parmi les leaders ou quoi que ce soit, enfin, d'instrumenter ces choses-là. Mais c'est des questions qui sont apparues, qui ont fabriqué des crises, qui fait qu'il y a eu des distances, et puis des gens qui sont revenus par la suite. Jamais vraiment des conflits, on va dire, durs, d'orientation, de désaccords de type de conduite, mais plutôt des moments où les gens avaient besoin de préserver quelque chose de personnel pour un parcours, et puis bah, après on se recoupait pas. L'autre difficulté qu'on a rencontrée assez vite, c'est la difficulté économique, parce que quand tu démarres, que t'es étudiant, c'est pas la même chose que quand t'as fini tes études et puis qu'il faut bien trouver du taf. Donc un collectif professionnel, une association en l'occurrence, vu qu'on est sur base associative, mais on aurait pu être sur une autre base, c'est pas la vocation de notre projet. On a pris l'asso parce que c'était la forme la plus simple et la plus à notre avantage et la moins chère, mais sinon, s'il y avait une autre forme juridique plus intéressante pour nous ou nécessaire, on l'aurait prise aussi. Il n'y avait pas d'idéologie rattachée à l'association. C'est pour ça que j'utilise le terme collectif, parce que si demain on bascule sous une forme type, mettons, je sais pas, une SCOP ou une autre type de forme juridique, ça ne va pas et ça ne doit pas changer grand-chose à l'esprit du projet. Par contre, la question du modèle économique a changé des choses, forcément, parce qu'à partir du moment où les gens en avaient marre d'être dans la survie, ce projet qui fonctionne sur un système d'économie plurielle, c'est-à-dire d'une part, il y a déjà, ça a commencé par ça, des prestations, c'est-à-dire on monte des projets sur lesquels on trouve des commanditaires, qui sont pas forcément des commanditaires que publics, quoi. D'autres parties de l'économie, c'est une économie d'investissement et de mutualisation. Et la dernière partie, c'est une économie de soutien public, mais qui a mis du temps à venir et qui reste aujourd'hui quand même une part, on va dire, assez faible de notre fonctionnement par rapport à l'histoire de notre collectif, quoi, par rapport à l'étendue des choses qu'on a réalisées. Enfin, donc ça reste une structure précaire, ça reste une structure où il faut vraiment avoir envie et des raisons précises de s'y inscrire pour pouvoir y fonctionner régulièrement. Donc évidemment qu'au cours du temps, il y a des gens qui ont eu des nécessités économiques qui les ont amenés à construire leurs ressources ailleurs, autrement, parfois on a beaucoup regretté ce que ça a pu produire, quoi. Donc depuis que ça existe, il y a eu pas mal de monde qui est rentré, qui est sorti. Il y a aujourd'hui un réseau, on va dire, d'amitié et de connivence qui n'est pas qu'à Bordeaux, qui est dans plusieurs villes de France, des gens qui savent que ponctuellement on peut retravailler ensemble, qu'eux-mêmes peuvent être mobilisateurs d'un projet. La plupart du temps, on est deux en codirection, et c'est ces deux-là qui définissent la plupart des projets réalisés. C'est Yvan Détraz qui est architecte et moi. Les personnes qui sont les autres permanents de l'équipe, là ça commence maintenant, c'est même un des débats actuels de l'équipe. Les deux personnes qu'on a actuellement comme collaborateurs, c'est deux filles, donc collaboratrices de terrain, sont deux personnes qui sont, comment dire, relativement jeunes par rapport à l'histoire du collectif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été des permanents de l'équipe qui sont parties sur d'autres histoires il y a 2 ans maintenant, et là on a une nouvelle époque encore qui est en train de s'engager. C'est-à-dire qu'il y a toujours, Yvan et moi sont toujours restés des piliers permanents. Il y a des gens du réseau Bruit du Frigo, on va dire, qui sont toujours restés associés au collectif, à réfléchir avec nous, à bosser avec nous, mais sans être des permanents de l'équipe. Et puis il y a des gens qui ont été des permanents de l'équipe, qui sont partis et d'autres qui sont rentrés. Donc là, les deux personnes qu'on a actuellement, la nouveauté qu'on a par rapport au vécu des dernières années, c'est que d'entrée de jeu, elles se sont positionnées comme voulant être coporteuses de projet, ce qui correspond aussi à un désir qu'on a, Yvan et moi, dans l'équipe. Donc ça va permettre de donner aussi des nouvelles orientations, certainement dans les contenus qu'on va dégager dans les années à venir. Voilà. Après, comment on se décide des projets, C'est déjà de la rencontre avec d'autres personnes, des contextes, des situations qui nous intéressent, c'est des opportunités. Et puis il y a des projets qu'on veut mener et on essaie de réunir les moyens pour les mener. Des projets qui nous tiennent à cœur, des projets personnels. Par exemple, l'an dernier, on a commencé à expérimenter une démarche qu'on appelle Lieu Possible, qui est, comment dire, une espèce de. C'est pas, ça pourrait être vu comme un festival, c'est pas vraiment un festival, nous, dans nos têtes, quoi. C'est une session où on retient des situations urbaines dans une ville, bon, en l'occurrence, là, c'est à Bordeaux, et en gros, on construit des situations temporaires à partir de d'idées d'usage qu'on trouverait intéressantes à activer dans ces lieux-là. Donc, ces usages peuvent être liés à des contenus artistiques, mais peuvent être aussi être liés à des usages comme prendre un bain. Sur les quais en face de la Garonne, quoi, pouvoir te faire coiffer, raser, masser à cet endroit-là, comme l'idée de faire un appartement public dans une zone tertiaire, enfin, tu vois, des valeurs d'usage de ce type-là. Donc, ça, ces projets-là, quand on veut les monter, c'est rare qu'on nous demande de les faire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réunisse nous-mêmes les moyens pour pouvoir les engager. Et puis, il y a des actions sur lesquelles on nous invite à intervenir qui sont intéressantes, pertinentes, passionnantes, mais qui en même temps n'ont pas l'économie. Nécessaire pour qu'on puisse être dans un cadre comment dire, viable économiquement parlant. Donc parfois parce qu'on a mis un peu d'argent de côté, ben du coup on fait le choix de s'engager quand même sur ces situations-là parce qu'on peut gérer le risque que ça représente pour nous. Enfin, voilà, concrètement, entre le départ de l'histoire de ce collectif où on était dans une forme comment dire plus bénévole parce que on n'avait pas les mêmes nécessités économiques quoi et qu'on travaillait à côté pour pouvoir survivre et le moment où on décide d'en faire son métier d'auteur quoi et ben forcément l'équilibre entre les choix d'action entre des projets qui ont une économie des projets qui n'en ont pas etc. est beaucoup plus sensible quoi voilà. C'est quels sont les avantages à avoir une compagne ou les inconvénients à avoir une compagne qui est aussi bah moi j'aurais tendance à dire que avant d'être avec ma compagne actuelle, j'étais avec une compagne qui n'était pas artiste. Voilà. Ouais, et qui n'était pas artiste, mais qui avait une pratique personnelle qui se rapprochait, de recherche qui se rapprochait d'une pratique artistique. Enfin, je pense que j'ai, bon, Je pense que j'ai toujours eu tendance à me rapprocher de gens avec qui j'ai une compatibilité d'intérêt culturel, quoi. Et donc forcément un intérêt pour l'art, pour la littérature, pour la pensée, pour voilà, donc là actuellement ma compagne elle est plasticienne, elle a fait les beaux-arts, enfin vraiment quoi, elle a cette formation-là, elle a une pratique. L'avantage c'est que tu peux fouiller des choses ensemble, qu'il y a un terreau de recherche, de dialogue, d'intérêt culturel commun. C'est toujours très très intéressant et très plaisant d'avoir des gens qui peuvent échanger avec toi sur quelque chose. Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est une question de disposition culturelle, je pense. C'est pas spécifique à une discipline ou à une profession. Tu peux être cultivé sur un domaine sans forcément en venir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à ce qu'elle le soit? Je sais pas. Enfin, je me suis jamais posé la question comme ça. Enfin, si, un intérêt, c'est de pouvoir faire des choses en coopération, en collaboration, tous les deux. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Tu partages les angoisses et le stress que vivent des artistes qui se posent les problèmes de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur travail, quoi. Voilà. Comment ils vont le diffuser? Est-ce qu'ils le diffusent? Est-ce qu'ils le diffusent pas? De la réception de leur travail, de l'absence de modèle économique pour ça. Bon, voilà. C'est tout. Donc ta question, c'est est-ce que être artiste, c'est une passion, un travail ou une maladie? Ben, ça dépend des gens, je pense. Ça peut être les trois. Mais alors après, tu me demandes quoi dans mon cas de figure? Savoir si je suis malade ou... Ben, pour moi, c'est... Ben, je te dis, je pense ça peut être les trois. Enfin, pour moi, c'est d'abord une nécessité. C'est une nécessité. Est-ce que c'est une passion? Je ne sais pas si c'est une passion pour moi. En tout cas, c'est une nécessité. Enfin, je crois que ça fait partie de ce qui me... d'avoir une pratique, on dira, une pratique poétique, on va dire. Une composante poétique dans ce que je fais, j'en sais rien, je sais pas quel terme on peut donner à ça, fait partie de ce qui me permet de me réaliser, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Et je le vois bien, c'est-à-dire que dans certains travaux que je peux être amené à faire, je pourrais les mettre en œuvre sous un angle très méthodique, d'ingénierie, comment dire, froide. Et je vois très, quand je m'analyse a posteriori d'action, très souvent je cherche les moyens de perturber la méthode, de détourner la méthode, la situation, enfin de pouvoir distiller quelque chose dedans qui fait que ça me mette en une forme d'intensité, quoi. Et c'est relié à des nécessités poétiques, voilà. Donc après, est-ce que c'est un travail au sens fondamental du travail, c'est-à-dire sans que ce soit un emploi, c'est un travail, absolument. C'est un travail. C'est quelque chose qui demande de la pratique, de l'exercice, du temps, de l'affinement, du retour, qui est douloureux autant que ça peut amener de la satisfaction. C'est préoccupant, ça demande sans cesse de... Enfin, ça occupe beaucoup la pensée, l'esprit, c'est présent, donc oui, pour moi, c'est un travail. Après, est-ce que c'est une maladie? Moi, je ne crois pas, en fait, du tout, mais... Je te dis, ouais, ça dépend de qui on parle, là, c'est rien. Voilà.
Alors, ta
la question c'est y a-t-il de l'érotisme dans le travail du bruit du frigo? Y a-t-il de l'érotisme dans mon travail? Et ben moi j'aurais tendance à répondre oui, puisque par exemple les ateliers d'urbanisme utopique ou même la majeure partie des démarches que l'on a sur les questions de concertation, de coopération citoyenne, moi je les rapproche à la question du désir et de l'érotique urbaine. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quand on travaille sur des situations de projet, on travaille sur quelque chose qu'on trouve désirable et non pas quelque chose qu'on trouve repoussant. Et même dans le choix de projets prioritaires, je pense que, notamment moi dans le collectif, j'ai un appétit très fort sur des types de situations où je sais qu'on va rencontrer un type d'intensité existentielle, d'intensité humaine, où on est susceptible de vivre des émotions que moi je rapproche très fortement de l'érotisme. Ouais. Mais pas au sens de l'iconographie érotique, comment dire, des pratiques sexuelles évidemment, mais au sens de d'une érotique existentielle, ouais. Oui. Après, dans mon travail personnel, en dehors du bruit du frigo, il y a des travaux qui ont rapport à l'érotisme, ouais. Il y en a. Beaucoup autour d'un travail de dessin, ou des choses comme ça. Mais bon, enfin, c'est pas une focale particulière que j'ai, quoi. Mais il y a des travaux de ce type-là, des perfs et des travaux de dessin. De vidéo aussi d'ailleurs. Ouais, quand même, quelques trucs. Ouais. Voilà. Hello, c'est Gaby Farage du collectif Bruit du Frigo et on écoute La Mer des Little Rabbits issue de l'album, extrait de l'album Dans les faux puits rouges et gris.
La mer va dehors, la mer va dedans, touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai. Tu sais, la mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. C'est vrai, c'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce
parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage.
Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants s'y vont. Les éléphants s'y vont, ils vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde.
Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage.
Comme ça. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés.
Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Le monde s'amuse bien à la plage.